On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Une étude de 60 millions de consommateurs a testé 26 thés en sachet parmi les références les plus consommées en France.
Et puis après, petit à petit, je me suis dirigée vers le thé d'origine, où là, c'est que le goût de la feuille, en fait.
Bilan de cette étude, jusqu'à 17 pesticides différents trouvés dans un seul sachet.
On consomme le thé autrement. On le prend plus comme un produit de grande consommation, mais plutôt comme un accompagnement d'une vie saine.
Environ 2 Français sur 3 boivent du thé, principalement en sachet.
Et en plus, il y a une façon de faire le thé qui est très économique. C'est-à-dire qu'avec 3-4 grammes de feuilles, on peut faire 1,5 litre, voire 2 litres de thé.
Le thé, au menu dont on va déguster. Bonjour à toutes et tous. À l'heure où vous êtes peut-être en train, derrière votre poste de radio, de plonger votre sachet de Earl Grey ou de Darjeeling dans votre mug, on met sur la table une question cruciale pour l'avenir de la planète, mais aussi pour la santé des consommateurs. Le thé peut-il devenir une boisson éco-responsable? Oui, car derrière son image de boisson bienfaisante, le thé est aussi une plante issue d'une monoculture intensive et parfois polluante. On en parle avec deux expertes du sujet qui ont consacré leur vie au thé. D'abord, Lydia Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Ingénieure agronome, experte en thé, on peut même dire sommelière en thé. Vous allez nous le prouver dans quelques instants. Vous parcourez le monde pour sourcer vos propres thés et pour écrire aussi des livres sur le sujet, comme votre dernier, Portrait de thé, voyage dans 40 pays producteurs aux éditions de Lachaud et Nestlé. Et c'est un livre que vous avez sorti il y a quelques mois.
Au mois d'octobre.
Un véritable voyage au cœur du thé, vous allez nous le raconter. Arlette Romer, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé les Jardins de Gaïa, c'était il y a un demi-siècle, il y a 25 ans, une marque de thé.
Un quart de siècle.
Oui, un quart de siècle, excusez-moi. Oui, non. En tout cas, c'est 25 ans, absolument. Une marque de thé et d'infusion bio, équitable, et sourcée par vos soins dans toutes les grandes régions de production du monde.
Oui.
Et vous allez nous faire goûter quelques-uns de vos crus et on va discuter avec vous évidemment de l'évolution du thé dans sa culture, dans les différents pays producteurs. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, Elvira Masson et Antoine Gerbel, bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Vous allez bien?
Oui.
Un peu de thé au menu dont on va déguster.
Volontiers.
Avec Elvira qui se tourne du côté de l'Angleterre.
Oui, du tea time britannique comme marqueur social.
Ah oui, intéressant. Antoine?
Alors le thé ça pousse en terrasse, on a tous envie d'être en terrasse en ce moment. Moi je vais vous parler de terrasses particulières, les terrasses du Larzac.
Ah, vous restez quand même vin aujourd'hui.
Eh oui,
décrottablement. Antoine Gerbel, je réagissais en direct dans l'émission depuis l'application de France Inter ou en nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com. À la console, Laurent Thomas avec Gilles Gaillard et Nadia Chougui. Toutes les infos pratiques, nos coups de cœur et le podcast de l'émission sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Bonjour, moi c'est Florent Laden du nord de la France.
Raconte-nous ton nouveau bébé.
Alors mon nouveau bébé c'est des jumeaux ou des jumelles, je sais pas encore, j'ai pas décidé. C'est Beerbug. Beerbug c'est un brew pub au rez-de-chaussée. On fait des snacks cuits au feu de bois à la friteuse. On sert des bières. Certaines sont brassées ici par nos soins. D'autres sont des bières qu'on achète aux copains. Au plus un, c'est Blumeke. Blumeke en flamand, ça veut dire la petite fleur. Et on fait une formule à 25 euros, entrée, plat, dessert et une boisson. 2 services le midi, 3 services le soir.
J'ai assisté à un super service, le premier service du premier jour d'ouverture d'une nouvelle adresse que les Lillois attendaient. J'y suis allé mercredi et c'est la nouvelle adresse de Florent Laden, celui que je considère comme le meilleur ambassadeur de la gastronomie nordiste, propose rue Royale en plein cœur du centre historique de Lille une certaine idée de l'estaminet. Estaminet, ça vous dit quelque chose sociologiquement?
Ouais, c'était un peu ces débits de boissons qu'on trouvait dans le nord de la France et en Belgique, où qui étaient des lieux un peu où on faisait société, on jouait aux cartes, on buvait un coup, on mangeait un morceau.
On fumait aussi,
on avait le droit de fumer dans les estaminets.
On mangeait un bout, ouais. Exactement, une espèce de cabaret du Nord, comme ça. Eh bien, Florent Laden en propose une vision moderne, urbaine et démocratique dans son nouveau lieu baptisé Beerbug. Qu'est-ce qu'on y mange et accessoirement, qu'est-ce qu'on y boit?
Alors, quand on est au rez-de-chaussée à Beerbug, je l'ai pas dit, je suis désolé, ça veut dire ventre à bière. On peut avoir frites maroilles, c'est un beau bol de frites blindé d'espumes à maroilles. Il paraît que c'est mon plat signature. Ça, c'est comme une, presque comme une poutine, mais avec un accent normal. On fait du chou d'hiver qu'on braise au feu de bois. On a fait une sauce chouron avec ça, mais la sauce chouron, on l'a faite avec de la tomate verte qu'on a mise à fermenter en octobre l'année passée. On a des falafels de lentilles, sauce yaourt maison, ail des ours sauvages qu'on allait cueillir ces jours-ci. On a des tacos de cochon, on a les premières salades, saucisses sèches, des flamiches. Les flamiches, c'est vraiment les... c'est la pizza un peu hein, du Nord. Il y a une bière qui est étonnante, que j'adore, enfin voilà, je suis un grand fan de bière. C'est une bière qu'on a faite avec des pots de pommes de terre, qu'on a mise à torréfier et on a mis du romarin dedans. On a appelé ça la Romarinstraat, ça veut dire la rue du romarin. C'est une rue qu'on prenait tout le temps avant quand on allait faire la fête avec les copains en Belgique. On a mis les demi-poulets là qui sont en train de cuire au feu de bois, on les a mis à mariner toute la nuit dans cette bière. Parce que quand on a goûté cette bière hier soir, on se disait, mais t'as envie juste de manger un poulet grillé avec ça. Donc là, on aura tout en un.
Chez Bierbuck, l'adresse de Florent Laden, 13 propositions d'assiettes nordistes, totalement locavores à 99%. Imaginez quand même que Florent Laden refuse de servir du café. Il sert à la place...
du thé.
Non.
La chicorée.
Ah bah quand même, on est au nord. Oui, mais une chicorée arrangée avec du malt de bière un peu acide pour mettre un peu plus d'acidité. Il y a également un gras qui est un peu apporté par des graines de tournesol biologiques. Et tout cela fait une infusion absolument délicieuse qui est de la chicorée. Non, pas
et
de café.
Et le poivre, il refuse aussi, non?
Le poivre, il met des piments de Belgique.
Ah ouais.
Non, mais
il est
tout à fait impressionnant. Alors il y a des frites absolument délicieuses faites maison avec cette crème au maroilles. Je peux vous assurer que vous allez jusqu'au bout du bol et vous léchez même le fond du bol avec votre doigt. Et puis, il y a cette flamiche. Je l'ai partagée avec Marie-Laure Fréchet, journaliste gastronomique et fondatrice de Mange Lille. Vous savez, ce festival qui devient chaque année en septembre une vraie scène pour la nouvelle génération des chefs du Nord. Quand Marie-Laure croque cette flamiche, ça donne quoi ?
C'est, y a énormément de goût dans cette... Florent appelle ça une flamiche. C'est plutôt une focaccia ou une sorte de pizza du Nord. C'est une pâte levée, une pâte à pain en fait. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'huile d'olive dedans. On sent beaucoup de chèvre. Et puis, ce qui est fabuleux, c'est toute cette végétation, j'allais dire, sur cette petite flamiche. Des feuilles de pourpier, des premières fleurs, je crois qu'il a dit des fleurs de cerisier. Voilà, c'est un plat de printemps par excellence. Voilà, on est au milieu de la prairie, dans les Flandres.
Tu aimes ?
Oui, c'est très très bon. Moi, j'adore tout ce qui est à base de pâte à pain. Donc là je suis chez moi.
Vous aussi, vous serez chez vous au Bierbuck, l'estaminette 2.0 de Florent Laden, qui va faire du bruit à Lille et bien au-delà. Assiette quand même, tapas du Nord en quelque sorte, entre 1 et 6 euros. Quand je vous dis que c'est vraiment un établissement démocratique, on mange à sa faim pour 10, 15 euros. Et en plus, ils servent tard le soir. Et pour une expérience un peu plus bistronomique, vous pouvez réserver chez Blomeke. Sans accent ou avec l'accent, ça veut dire petite fleur, c'est à l'étage pour un menu champêtre, entrée, plat, dessert et boisson à 25 euros le soir et le midi. Voilà, c'est vraiment tout à fait intéressant comme adresse. Le thé peut-il devenir une boisson éco-responsable ? On en parle juste après une pause musicale un peu spéciale. The Specials, vous savez, les vétérans du ska anglais, ils reviennent après 37 ans de silence discographique avec le titre « Vote for me » choisi par Djoubaka. Nous, on vote pas pour le Tea Party, mais on vote pour le thé dans « On va déguster » sur France Inter.
Apart. There are no rocks that rock away beach.
On va déguster ce mets à l'heure du thé en ce dimanche 31 mars. Nous sommes en direct avec l'experte Lydia Gauthier et Arlette Romer, fondatrice des Jardins de Gaïa. Vous allez nous raconter cette belle aventure. Histoire de plonger dans l'univers du thé, je vous ai demandé à toutes les deux, je vous ai lancé comme ça un petit défi, celui de nous faire goûter ce que l'on appelle dans l'univers de la dégustation, à l'heure où sonne, là on entend sonner les minuteurs, preuve que les choses sont en train d'infuser. Un thé d'accueil, voilà, oui, un thé d'accueil pour se mettre de bonne humeur. Dès le début de cette émission, Lydia Gauthier, vous avez quand même versé, il faut le noter, dans des verres à vin, un élixir, qui pourrait ressembler d'ailleurs à du vin blanc, Antoine Gervel.
Ah oui, tout à fait, c'est très légèrement doré. Si je pouvais décrire, pour moi c'est un vin à l'œil, hein, y a pas de problème, c'est doré. C'est un tout petit peu oxydé, c'est-à-dire qu'il y a des notes un petit peu plus blé mûr, c'est très brillant.
Vous êtes à l'aveugle et je précise que vous ne savez rien de l'identité de ce thé. Arlette va aussi le goûter d'ailleurs.
Ça me fait penser à un Alsace qui a un peu d'âge, voilà, au niveau de la robe. Hein,
vous oubliez de préciser quand même une chose, c'est la température de ce thé.
Oui, il est froid, il est à température.
Ah oui, bien
en fait.
Bien sûr, il est froid. Il est servi dans un verre à vin.
Il est servi dans un verre à vin, absolument.
C'est très traître, hein, tout ça.
Alors, de quoi s'agit-il ? Escarlette, vous avez une petite impression à nous délivrer sur la palette aromatique de ce thé mystère.
Alors, je pense que c'est un thé vert.
Ah.
Donc, avec une petite note de fleurs.
Ah, j'entends du fleur. Oui. Est-ce qu'on va plus loin, les amis ?
Moi, j'ai cru qu'il y avait du jasmin. Je trouve qu'il y a des notes de fleurs blanches, mais je sais pas.
Ah, ouais. Moi, je suis un adepte du jasmin. Je trouve pas. Non, une note très citronnée.
Il y a une note très fleurie. Ça, c'est sûr.
Je sens pas la fleur.
On est vraiment sur. On part un peu plus sur les agrumes, j'ai l'impression.
Vous êtes en tout cas dans le bon registre.
C'est-à-dire du fruit ou de la fleur ?
De la fleur.
De la fleur. Très bien, Arlette.
Tout à fait.
Fleur. Vous sentez, vous percevez quelque chose ?
Une fleur assez connue, en fait, assez courante, qu'on aime bien sentir. Moi, j'ai le droit de lui dire ?
Bah, si vous avez une idée.
La rose.
Ah, la rose.
Ben voilà, bravo.
Tout à fait. Alors, par contre, c'est un thé blanc.
C'est un blanc, oui.
C'est un thé blanc du Népal, de Shangri-La, et qui est, que je parfume naturellement, donc il n'y a pas d'arôme rajouté, avec des boutons de rose, Rosa Damascena, qui viennent du Maroc.
Très bien, donc tout est naturel évidemment. On en est aux couleurs du thé, le thé en voit de toutes les couleurs, on le sait, il y a le vert, le blanc, le noir. S'il fallait comme ça un indice pour nos auditeurs, pour distinguer les différentes chromies du thé, vous diriez quoi ?
Alors,
le thé blanc ?
Il y a 6 couleurs.
Oui.
Blanc, vert, jaune, bleu, vert, noir et sombre. Et c'est une histoire d'oxydation et ou de fermentation pour ces couleurs. Donc, thé blanc naturellement oxydé, thé vert pas du tout, thé noir complètement,
oui.
Thé bleu vert semi-oxydé et le dernier, thé sombre qui est fermenté, donc avec une fermentation microbienne et qui peut être plus ou moins oxydé aussi suivant la manière dont le producteur va le travailler.
En voilà une explication claire. Le fait d'aromatiser même naturellement le thé, peut-être que dans l'esprit de certains qui nous écoutent, ça peut... être considéré comme une façon de pervertir le thé en quelque sorte, de pervertir sa pureté, comme une espèce de béquille aromatique, peut-être pour soutenir un thé qui n'aurait pas forcément beaucoup de goût. Que faut-il en penser de ces thés aromatisés ? Ça peut être des grands thés ?
Ça peut être des grands thés, et puis c'est une autre manière de consommer le thé. Si on va dans le registre du vin, par exemple, un bon Kir Royal fait toujours plaisir,
oui,
avec un bon champagne et une bonne crème de mûre. Et pour le thé, c'est pareil. Donc on peut jouer sur les ingrédients qui vont servir à faire la création et avoir des ingrédients de qualité.
Arlette Romer,
100% d'accord. 100% d'accord. Ça permet
de... Il y a dans les jardins de Gaïa votre vaste gamme de thés et d'infusions. Il y a également des thés aromatisés.
Bien sûr, bien sûr. En fait, ça permet de donner une petite touche. Ça permet de varier. Ça permet d'amener les gens au thé, ceux qui n'aiment pas. Donc, pour X raisons, si c'est bien fait avec un bon thé de base et un arôme ou un rajout d'huile essentielle ou de fleurs ou d'épices, ça peut être bien.
Ça peut être, donc, quand il s'agit d'aromatisation naturelle, ça peut être des huiles essentielles, des épices, des fleurs comme vous le faites avec, oui, vos roses du Maroc. Oui. Ça peut être des arômes naturels biologiques aussi.
Oui, bien sûr.
D'accord. Non, parce qu'on voit beaucoup, même dans des enseignes assez célèbres, des thés au caramel, etc., avec des et des arômes de synthèse. On est d'accord avec ça?
Tout à fait, mais c'est comme toute l'industrie agroalimentaire, on a des choses naturelles et puis d'autres qui le sont moins, où on peut utiliser des arômes de synthèse.
Arlette Romer,
oui,
passons à votre choix de thé, en thé d'accueil, où est-il?
Alors,
ah, je l'ai
à côté de vous.
Magnifique. Alors là, couleur pâle, hein,
ouais.
Là aussi, on va essayer de jouer un peu l'aveugle, allons-y.
On est plus gros plan muscadet.
Par contre, la température, on est franchement thé. Voilà. Alors,
d'ailleurs, quelle température?
Entre 90 et 95.
Oh là là, là aussi c'est fleuri. Hein. Mais alors, ça doit pas être une vraie fleur, mais il y a un bouquet floral d'une finesse prodigieuse.
Très peu de tanin.
Vous avez une idée ou pas, Lydia Gauthier?
Alors plutôt l'Inde, le nord de l'Inde.
Oui, bien joué.
Contrefort de l'Himalaya.
Oui, mais
encore. Darjeeling.
Darjeeling, appellation extrêmement célèbre évidemment, oui, peut-être bien l'une des plus connues au monde. S'il fallait situer Darjeeling, on est donc effectivement au nord-est de l'Inde, hein, c'est ça, Arlette Romer?
Au nord-est de l'Inde, frontière avec le Bhoutan, avec le Népal, avec le Bangladesh.
Oui.
Donc c'est une toute petite région montagneuse, dans les contreforts de l'Himalaya. Les jardins se situent entre 400-500 mètres le plus bas jusqu'à 1800 à 1900 le plus haut.
Ah oui, donc ça peut être assez haut.
Et il y a à peu près 80-84 jardins au Darjeeling aujourd'hui.
S'il fallait donner pour ceux qui nous écoutent quelques jalons aromatiques pour identifier, pour approcher ce thé, vous diriez quoi?
Alors, celui-ci, je dirais qu'il est plus fleuri parce qu'il se situe dans une région qui est à peu près à... non loin de Kurseong d'ailleurs, et donc c'est à peu près le centre du Darjeeling. Mmh. C'est une région les jardins vont de 900 à 1300, 1400 mètres, et donc c'est assez fleuri. Alors que quand on monte plus haut, ça sera un peu plus fruité, un peu plus soutenu.
Plus l'altitude du jardin est élevée à Darjeeling, plus c'est fruité. Plus on est bas, plus c'est fleuri.
Voilà.
Il y a aussi des Darjeeling de saison.
Oui.
Il y a des Darjeeling de printemps, d'été, c'est ça?
Printemps, été, automne. Et donc ça, c'est un Darjeeling de printemps.
C'est l'oxydation, c'est du blanc, du vert, du bleu vert, du rouge.
Intéressant, vrai.
Alors c'est un thé oxydé, donc noir à 100%. Oui. Alors la particularité c'est un first flush, donc c'est un thé de printemps.
First flush, c'est première
récolte. Voilà. Et donc la particularité des thés de printemps, c'est qu'en fait l'oxydation, elle se fait pendant le flétrissage, donc qui dure toute une nuit, puisqu'il fait assez frais à cette époque de l'année, et le roulage. Donc il n'y a pas d'accélération, donc c'est une oxydation longue, mais qui est complète.
Donc un thé noir peut être très très pâle d'Europe.
Voilà. Voilà, c'est un peu aussi à Poya qu'on fait du rosé, là. On est vraiment dans une transparence. Très clair, ouais. Par contre, en goût, c'est impressionnant.
De délicatesse.
De délicatesse.
Ouais. Et c'est à la fois très tonique aussi. Hein. Il y a quelque chose de très printanier dans ce thé.
Alors les premiers thés sont toujours ceux auxquels on attribue le plus de qualité, hein.
Oui.
Donc aussi bien gustatif qu'au niveau des vertus, parce que c'est dans les premières feuilles qu'on retrouve tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça donne un petit coup de peps sans donner trop.
Et c'est un thé estampillé Jardin de Gaïa, votre marque, que vous avez donc fondée il y a un quart de siècle, il y a 25 ans. J'ose à peine vous demander si c'est un thé biologique, puisque tout l'été de votre enseigne, qui est d'ailleurs distribué dans les boutiques biologiques un peu partout, maintenant vous avez quand même une distribution... assez bien réparti.
Alors, boutique bio, bien sûr, mais aussi certains magasins de thé, magasins éthiques, épicerie fine, restauration, etc.
Donc, ce Darjeeling est bio?
ce Darjeeling est bio. Alors, ce qui est intéressant avec ce Darjeeling, donc, c'est un jardin qui s'appelle Single.
Oui.
C'est l'un des plus anciens, donc époque british, il a plus de 200 ans. Mmh. Et donc j'ai choisi ce thé-là parce que c'est un thé qui provient de théiers qui ont plus de 200 ans. C'est les wow. théiers d'origine. Mmh. Donc pendant des années, ils ont voulu les enlever et les remplacer parce qu'en fin de compte, un théier, il donne vraiment entre 20 ans et 60, 70 ans. Et après, en général, ils les remplacent. Mmh. Et c'était un petit peu leur patrimoine et leur côté culturel. Ils voulaient même en faire un musée à un moment donné. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont valorisé en fait en faisant une récolte, une petite récolte en fait avec ces théiers. Donc l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'amertume, quasiment pas d'astringence, donc il ne va pas taper dans l'estomac pour ceux qui ont les intestins ou l'estomac un peu fragile.
Bien sûr, donc le bio existe à Darjeeling, la preuve dans nos verres, hein, puisque là aussi ce thé est servi dans un verre à vin. Quelle est la place du bio dans cette appellation Darjeeling justement, et comment le bio a évolué, puisque vous avez 25 ans de recul depuis l'année où vous avez créé, 1994, les Jardins de Gaïa.
Alors c'est à Darjeeling que ça a commencé, hein. Donc je pense que c'est la demande à l'époque qui a fait que les Indiens aillent vers le bio, et surtout aussi après que les Anglais soient partis, en fait, à l'époque des Anglais, c'était pas traité. Les théiers ont commencé à être traités parce que on dit que c'est les Anglais qui ont cherché un petit peu à refaire un nouveau commerce et ont proposé un petit peu des engrais histoire de booster un peu le thé. C'est ce qu'on raconte.
Pour augmenter après, la productivité, voilà. la rentabilité, etc. C'est toujours la même histoire.
Voilà. Après, c'est vrai que c'est des monocultures, donc c'est pas évident et les théiers sont plus vieux, etc. Mais le Darjeeling, donc c'est le début de la bio, c'est il y a un peu plus de 25 ans les premières certifications, donc Single a été un des premiers jardins certifiés, et aujourd'hui je pense qu'il y a plus de la moitié des jardins qui ont une certification bio. D'accord. Ils sont tous en train d'aller vers ça pour plusieurs raisons, d'abord parce que le résultat est là, et parce que la demande aussi est là, et parce que les qualités, et aussi je crois que les paysans ont plaisir en fait à faire des thés qui soient plus propres et à être plus créatifs.
La conversion à l'agriculture biologique ou la biodynamie, on va le voir dans un instant, de nombreuses plantations dans le monde, Lydia Gauthier, elle s'est faite un peu sur la pression du consommateur, et notamment du consommateur européen et occidental, qui voulait justement un thé entre guillemets sain, propre, non porteur de contaminants ou de traces de pesticides.
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que le principe de labellisation, c'est très occidental. Et je pense que c'est pour ça aussi que des pays traditionnellement producteurs et consommateurs comme la Chine, le Japon ou la Corée du Sud se sont mis beaucoup plus tardivement à faire du bio et maintenant de la biodynamie, parce que c'était pas dans leur culture du tout. Et ils avaient d'autres manières naturelles aussi de préserver leur terroir et de travailler à leur manière le thé. Donc, effectivement, c'est une caution. Après, il y a des systèmes de culture qui existent de manière quasi millénaire dans certains endroits en extrême Asie, où le producteur a toujours respecté son terroir, l'a préservé, et ne se fera pas forcément labelliser bio, parce qu'il y a beaucoup aussi de petits producteurs, tu me diras Arlette si t'es d'accord, qui n'ont pas les moyens et qui ne sont pas dans cette dynamique-là, parce qu'ils n'ont pas accès au marché international et ils n'ont pas forcément aussi les moyens de se labelliser.
C'est ça. On dit aussi qu'il y a des producteurs de thé dans des régions assez pauvres qui n'ont pas non plus les moyens de s'acheter des produits phytosanitaires, des herbicides, des engrais, etc. Et que ça a pu préserver un certain nombre de plantations justement de la contamination chimique. Est-ce que c'est vrai ou ce raisonnement est...
Et l'accessibilité aussi. Par exemple, moi, je travaille avec un petit producteur en Chine qui a même pas un hectare de terrain, qui est au bout d'une forêt de bambou, il y a 2 heures de marche pour arriver à sa plantation. Il va pas s'amuser à porter des kilos d'intrants dans sa plantation. Donc par contre, il va pas récolter toute l'année.
Donc il est obligé de se passer, entre guillemets, d'intrants phytosanitaires.
Voilà, il va se passer d'intrants phytosanitaires, il va vraiment travailler en rythme avec le rythme des théiers, et il va récolter que 3 mois dans l'année.
Question générale que j'adresse également à Antoine Gerbel. Est-ce que le thé, la culture du thé, je rappelle quand même que les chiffres sont absolument considérables, 4,1 millions de tonnes de thé produits chaque année dans le monde, soit près de 130 kilos chaque seconde. Et le gros poids lourd du thé, avec 1,7 million de tonnes, c'est la Chine, juste devant l'Inde, avec 1 million de tonnes. C'est donc, là aussi, évidemment, une monoculture considérable. Est-ce que par le fait que c'est une monoculture et qu'elle est pratiquée dans des climats souvent humides qui est donc favorable au développement des parasites et des maladies, est-ce que le thé n'est finalement pas condamné à être un peu comme le vin, une culture intensive, productiviste?
Est-ce que c'est, moi j'ai une question, c'est est-ce que justement ces produits sont arrivés pour produire plus et plus régulièrement comme dans le vin? Parce que c'est ça principalement. C'est ça. Il y a pas de nouvelles maladies qui sont apparues. Elles sont endémiques, j'imagine, sur le thé. Quelles sont les principes? Pas de maladie qu'on a aujourd'hui sur le thé.
Alors il y a quelques maladies qu'on retrouve effectivement régulièrement et surtout dans les endroits plus chauds et plus humides, effectivement les plaines où les cultures sont aussi plus intensives. Quand on parlait de l'Inde, je pense à l'Assam qui est une région quand même très 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 grande productrice avec des très grands jardins. Et donc là, on a le principal, c'est le tea mosquito. Donc le tea mosquito, c'est ce qu'ils appellent, c'est comme ça, c'est un mini, un micro moustique qui va prendre, sucer en fait les feuilles de thé, les jeunes feuilles. Et donc une fois qu'il est là, très difficile en fait de l'éliminer. Il y a ce qu'ils appellent aussi le red spider, donc l'araignée rouge. Donc c'est pareil, c'est un mini truc qui détruit les jeunes feuilles. Et donc là, c'est vraiment la catastrophe pour les premières récoltes. Et après, il y a les classiques, donc un petit peu ce qu'on appelle des champignons. Donc quand c'est trop humide, à certaines époques de l'année, il y a la chenille, il y a quelques trucs. Mais disons que c'est les deux premiers qui sont les principales maladies.
Qui prospèrent. Parce que la production est intensive.
Exactement.
Et justement, pour en venir au sujet qui nous occupe, puisque vous avez une double casquette, Arlette Romer, en plus d'être fondatrice des Jardins de Gaïa, vous êtes également vice-présidente du label Déméter, qui est le label qui encadre la biodynamie, une vraie méthode culturelle qui se développe dans des plantations. Pour vous, la biodynamie, vous l'observez, vous n'êtes pas, vous ne vouez pas un culte absolu à Steiner, etc. Mais vous constatez que la biodynamique est souvent décriée d'ailleurs chez nos auditeurs. On avait fait une émission sur la biodynamie dans le vin. Oulala, on s'était pris une quarantaine de mails, on nous avait traité de druides ésotériques, etc. Vous constatez que la biodynamie marche. Pourquoi?
Je suis complètement, c'est en fait sur le terrain, ça marche vraiment. Alors c'est vrai que je suis pas c'est pas au niveau philosophique, sachant que c'est quand même Rudolf Steiner qui a été à l'instar de cette agriculture. C'était en 24, son premier cours aux agriculteurs, ça veut dire que ça fait presque 100 ans. Et donc pour moi, la biodynamie est la réponse justement à la monoculture, surtout. Parce qu'en fait, la monoculture, c'est une culture. Et donc on va souvent, en fait, que ça soit bio ou pas bio, en fin de compte, si la bio remplace, il y a le même schéma que l'agriculture intensive chimique, au lieu de mettre de la chimie, on va mettre de l'organique, mais je veux dire, ça va appauvrir. Exactement, ça va appauvrir la terre.
Il peut y avoir un bio intensif aussi.
C'est surtout en fait ce qui est en train de se passer, puisque la bio a quand même, on va dire que c'est quelque chose de très lucratif et quelque chose qui est en train de monter, mais il y a quand même derrière tout un tas de gens qui vont cautionner ça, mais qui veulent pas remettre les choses à leur place. En fin de compte, ils vont continuer à prendre, à prendre, à prendre, et en fin de compte, la terre, elle va s'appauvrir. Et la biodynamie est une réponse à ça. Parce que la biodynamie, en fait, ça soigne la terre. C'est pas uniquement la plante, ça va mettre des préparats sur la plante pour prévenir les maladies, pour lui donner de la force, mais surtout, ça va équilibrer la terre.
Rendre les sols plus vivants pour renforcer la plante.
Exactement.
Est-ce qu'on pourrait parler d'homéopathie de la terre?
Exactement,
en fait.
Ça, c'est exactement ça.
Pour moi, c'est
la médecine douce de la terre. Donc, prévention et réponse.
Prévention surtout, pas de curatif.
Voilà. Après, je vais dire, il y a d'autres moyens. Il y a les petits producteurs, c'est ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on met en avant. Donc là où il y a beaucoup plus de biodiversité, de rotation, etc., qui marche aussi. Sauf que les petits producteurs, il n'y en a pas tellement que ça, et pas du tout à l'origine du thé, et que ça coûte plus cher, c'est plus compliqué. Donc c'est des choses qui se développent aussi, et on encourage, mais c'est une deuxième réponse.
Lydia Gauthier, à l'occasion justement de vos voyages dans les régions productrices de thé, vous constatez l'essor de la biodynamie comme une solution possible, crédible, efficace pour faire du thé plus naturel.
Effectivement, j'ai eu l'occasion de visiter en particulier au Sri Lanka et en Inde, à Darjeeling, des jardins qui sont en monoculture et qui sont convertis, qui étaient en bio, qui sont convertis à la biodynamie. Et il y a vraiment une différence de force des théiers de résistance des théiers. On le sent, je ne sais pas comment vous dire, on sent vraiment qu'il y a une énergie, il y a une vie dans les plantations qu'il n'y a pas, non, il n'y a pas dans le conventionnel, c'est sûr, mais qu'il n'y a pas non plus dans le bio.
Donc théiers plus résistants.
Des théiers plus résistants à un sol qui vit de nouveau, qui n'est plus un substrat mort. C'est vrai que, enfin, je pense que c'est aussi la clé du développement durable du thé.
Je rajouterais des agriculteurs plus heureux. Ils sont beaucoup plus heureux de faire, on le sent.
Et qui très accessoirement exposent un peu moins leur santé. On va parler de ces questions de santé également avec le cas très précis notamment du Sri Lanka dans un instant. On va continuer bien sûr à découvrir des thés avec vous, mesdames. Merci d'être là. Juste avant, je vous propose un petit détour par l'Angleterre car le English Breakfast ne fait pas son Brexit.
On va déguster sur France Inter.
Brexit ou breakfast?
Plutôt tea time que breakfast, enfin,
non,
ceci étant.
Non, c'est tea time plus que breakfast.
Oui, c'est ça, raison. Exactement. Si vous avez déjà fréquenté un salon de thé en Grande-Bretagne, et je pense que c'est le cas de chacun d'entre vous.
Non.
Vous êtes forcément... Non, Antoine, non. Non, il ne fréquente que le vignoble.
Que les pubs.
Surtout.
Vous êtes forcément tombé sur l'appellation afternoon tea. Ou bien high tea, ça vous parle, non?
Est-ce que ça parle afternoon tea, high tea?
Bien sûr. Hein, alors moi, je pensais bêtement que c'était la même chose. Voir que le high tea était la version plus sophistiquée de l'afternoon tea. High, je me disais, voilà, c'est plus upper.
C'est que j'adore votre accent.
Je ne vais pas le garder très très longtemps. J'ai fait une fois, maintenant je vais passer à la française. C'est un vrai bonheur à entendre. Alors d'abord, je pense qu'on peut écluser un premier sujet. Je parle sous votre contrôle, Lydia Herlette. Le thé en soi, en Angleterre, à l'heure du tea time, a une importance relative. Les Britanniques consomment de l'English breakfast tea ou des thés un peu tout venant.
Lydia?
Tout à fait. Par contre, c'est parmi les plus gros consommateurs par kilo et par habitant.
Là, on parle de quantité, peut-être
un peu moins
de qualité.
Ils font du quanti, voilà, pas du quali,
c'est un support.
Dit,
oui. C'est ça. C'est une boisson du quotidien.
Exactement. Alors, high tea et afternoon tea n'ont finalement pas grand-chose à voir. La différence entre ces deux formes, ces deux manières de pratiquer le tea time, ont comme très souvent en Grande-Bretagne, une espèce de force un peu statutaire. Alors, l'afternoon tea était réservé traditionnellement à la upper class, alors que le high tea, paradoxalement, contrairement à ce que son nom indique, à la working class. Le afternoon tea est un repas léger, composé de ce qu'on appelle des tea sandwiches, type œuf cresson, cheddar, du salé.
Oui, avec du pain de mie bien moelleux.
Voilà, et bien blanc. Avec évidemment des scones et de la clotted cream, et de la confiture de fraises. Là, j'y reviens, qu'il y a encore un débat, et je vous en ai apporté. Des pâtisseries. Donc, c'est de la finger food. C'est un repas qui est servi vers 16h, qui ne remplace pas le dîner. La pratique de l'afternoon tea a débuté vers 1840, enfin milieu 19e, à l'initiative de la duchesse de Bedford, qui souhaitait grignoter quelque chose et tenir le coup avant le supper, avant le dîner. Et c'est rapidement devenu un moment de réception, voilà, un moment où on socialisait. On l'appelle également low tea, et non pas high tea, parce qu'il se prenait dans la drawing room, à savoir la bibliothèque, sur des tables basses.
Oui.
Donc afternoon tea égale low tea. À l'inverse du high tea, qui n'est donc pas une version sophistiquée, mais une version working class, qui se prenait autour d'une table haute, d'où high tea, car c'était un repas à part entière, c'est le dernier repas de la journée de la working class, et on y prenait des repas assez roboratifs entre 17h et 19h. Pas de finger sandwiches, mais plutôt des baked beans, des pommes de terre, des pies.
Et on levait pas le petit doigt.
Ah non, c'était pas le genre.
On s'emparait de la tasse, ouais.
On voit parfois encore le nom de cream tea, parce que les Anglais font jamais dans la simplicité. Alors, cream tea, c'est la version simplifiée de l'afternoon tea de la upper class, où on ne prend que des scones avec de la clotted cream, cream tea. Alors, des scones plutôt servis chauds ou tièdes, avec de la crème épaisse, qui a presque cette texture de beurre, donc cette clotted cream, de la confiture de fraises. J'ai découvert à cette occasion qu'il existait également un débat quant à l'ordre de l'étalage de la crème et de la confiture sur le scone.
Sacré rose beef.
C'est-à-dire, est-ce qu'on fait crème puis confiture ou bien confiture puis crème? Dans le Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre, on fait crème puis confiture. Et en Cornouailles, on fait confiture puis crème.
Mais on met la crème sur la confiture?
Oui.
Mais c'est pas pratique, non?
Mais c'est pas pratique. Ouais. Et la reine, dit-on,
ouais, mais c'est la Cornouaille.
Pratique cette deuxième méthode. Confiote.
Ils font tout comme tout le monde, c'est bien connu. Ouais.
Vous imaginez quand même le niveau du débat. Ouais. Confiote puis crème, c'est ce que fait la reine. Elle pratique donc la méthode de Cornouaille. Alors la clotted cream, c'est quoi exactement? Idéalement, c'est une crème crue, magnifique, chauffée, cuite, épaisse, grumeleuse, enfin caillouteuse. Clotte, c'est un caillot. Alors j'ai failli, moi, vous apporter une crème crue de vache jerseyaise magnifique que je trouve chez mon fromager Taka et Vermour du Faubourg Saint-Denis.
Formidable enseigne.
Une crème si épaisse, si puissante, qui sent le pit de vache, qui est une merveille, mais évidemment, elle est en rupture. Donc je suis allée à l'épicerie anglaise, acheter de la clotted cream avec le Union Jack dessiné dessus.
Ça, c'est
une version pasteurisée qui a pas un goût génial.
On peut même parler d'un truc industriel.
Non, mais j'ai quand même fait des scones pour vous ce matin, qui sont plus tièdes, hein, parce que je les ai fait en me levant.
Oh là là, je vous laisse, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Définition d'un scone.
Scone, c'est de la farine, du beurre, de la levure, pas mal de baking powder, de levure, deux grosses cuillères à soupe pour 500 grammes. Et ça, ce goût un petit peu de poudre levée.
Délicieux.
Ils sont pas mal. Hein.
Ils sont super
pour
bons.
Une première fois, je vous dis comment j'ai fait ou pas?
Vous avez fait quand ce matin?
Oui,
évidemment. C'est vraiment super.
L'idée, c'était qu'ils étaient supposés être tièdes. J'ai pas réussi mon coup. Pour une dizaine de scones, on prend 500 grammes de farine, 50 grammes de sucre, 125 grammes de beurre demi-sel, pas trop froid, 30 centilitres de lait, deux grosses cuillères à soupe de levure chimique. On tamise la farine, la levure, on met un petit peu de sucre, on détaille le beurre en morceaux, on travaille le mélange entre les doigts jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange, une texture sableuse, on verse le lait, on mélange à la fourchette, on pétrit un petit peu voilà, à la main, on abaisse la pâte sur un plan de travail fariné, pas trop fine hein, la pâte, quand même 2,5 cm d'épaisseur si on veut qu'il lève bien, là je trouve même qu'il pourrait être un peu plus haut les miens, donc quand même 3 cm d'épaisseur pour la pâte. On découpe des ronds théoriquement avec un emporte-pièce, comment est-ce qu'on dit, cannelé avec des petits ronds pour obtenir la forme. Et ben voilà, moi j'en avais pas, donc ils ont pas ce petit créneau autour. Ils sont quand même pas mal. On dore au jaune d'œuf avec un petit peu de lait. On met sur un papier cuisson et on enfourne à 200 degrés pendant un quart d'heure. Et voilà.
C'est le plus délicieux.
Franchement, ils sont très bons.
C'est le plus vol-au-vent des scones que j'ai jamais
mangé. Ça veut dire quoi? Ça qu'il est creux à l'intérieur?
Non, il est léger.
Non, c'est un compliment. Léger, oui. Attendez, imaginez que celui que je tiens en main, qui a à peu près 5 cm de diamètre, monte à 5-6 cm de hauteur.
Oui, il est quand même pas mal monté. Ouais.
C'est superbe.
Ouais.
Et ça donne une texture un peu nuageuse. Très
mais
bonne,
je regrette de ne pas avoir une cottage cream au lait cru. Voilà, vive le lait cru.
Formidable. Vive les scones. Juste une question. Qu'est-ce qu'il y a dans la tasse des Anglais, principalement du Earl Grey?
Souvent. Ou du breakfast et d'Argeling aussi. Toutes leurs anciennes colonies, donc des thés indiens, Assam, Darjeeling, des thés du Sri Lanka, Ceylan, qu'on appelait Ceylan, mais majoritairement.
Sans caricature, il s'agit quand même de thés qui sont assez sombres, tanniques,
à la base,
un peu astringents.
On était surtout du lait, des choses comme ça, mais ça change, hein, ça a bougé. Hein,
ça se raffine.
Ça se raffine, exactement.
Ah bon, les Anglais raffinaient?
Bien sûr, ça arrive.
Je plaisante, évidemment.
Oui, les scones, d'ailleurs, ils vont très bien avec les deux thés qu'on a servis, avec Rose Népal et les Singles.
Dans un instant, j'espère que vous nous faites découvrir d'autres crus.
Oui. Tout à fait.
Bon, et ben, là aussi, on va jouer encore un peu. En attendant, une petite berceuse, c'est tout doux, comme un très bon thé. Rita Mitsouko sur France Inter.
Feel free!
Instant T sur le plateau dont on va déguster. Nous sommes en direct avec Arlette Romer, fondatrice des Jardins de Gaïa, une très très belle marque qu'on trouve désormais dans beaucoup de boutiques spécialisées dans le bio, dans des commerces équitables également, totalement biologique, hein, des infusions, du thé essentiellement, que vous sourcez vous-même. Vous accompagnez les producteurs de façon dans un partenariat équitable de surcroît.
Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, quand on dit partenariat équitable, c'est payer, à la base, c'est payer le prix juste pour un produit. Mais en fait, ça va bien au-delà. Et donc, il y a des primes, il y a un prix financement, il y a une prime de développement. Cette prime de développement, elle aide à tout ce qui est social ou sur place, à développer les choses, donc pour toute la région. Mais on peut aller encore au-delà, je dirais. Pour moi, l'éthique, c'est vraiment tout au long de la chaîne. Ça veut dire que quand il y a des besoins particuliers sur place, ben on va essayer de trouver un moyen de les aider, que ce soit pour une irrigation, que ce soit quand je parlais du single tout à l'heure, c'est parce que c'est un jardin qui a besoin d'un petit coup de pouce. C'est donc il suffit de prendre la décision d'acheter ce thé-là.
En fait. Et très très grosse réflexion aussi de votre côté et du côté de votre PME qui est installée en Alsace. Combien d'employés ?
On est 75 ou 77 aujourd'hui, je crois.
Grosse réflexion autour des emballages, évidemment. L'emballage du thé, c'est quand on veut faire une boisson éco-responsable, on ne peut pas éviter cette question.
Alors l'emballage, c'est vrai que c'est pas simple. Donc à la base, mes thés étaient emballés dans des sachets craft, mais bon, c'est pas le top au niveau des arômes. Pour une tisane, ça pose pas de problème. Donc on a développé il y a une quinzaine d'années avec une entreprise qui faisait du papier. On a travaillé 2-3 ans à tester, et donc aujourd'hui les sachets sont donc l'extérieur, c'est du papier qui est recyclable, biodégradable bien sûr, et l'intérieur c'est de la cellulose de bois. Donc l'avantage, c'est que c'est compostable et que ça ne laisse pas passer, ça fait barrière en fait, ça ne laisse pas passer les arômes.
Équitable jusqu'au bout des ongles et jusqu'au sachet.
Oui, c'est un choix qu'il faut faire. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut décider, même si c'est pas toujours simple.
Et pas de compromis. Et puis nous sommes également en compagnie de Lydia Gauthier. Portrait de thé, c'est votre dernier livre aux éditions Delachaux et Niestlé. Voyage dans 40 pays producteurs pour vraiment tâter le terrain. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous continuez à faire. Vous produisez des thés. Comment on peut se les procurer, les thés que vous faites ?
Alors, je sélectionne des thés. Je ne les produis pas encore.
Non, vous vous procurez.
Je me procure.
Oui, oui, non, vous les produisez pas encore, absolument.
Alors c'est par le biais du goût, ma première sélection. Donc par le biais de mes voyages, bien sûr, et puis aussi des échantillons que je reçois. Donc ça, c'est la première porte d'entrée pour sélectionner le thé. Ensuite, il y a bien sûr la dimension humaine, comme Arlette, qui est très importante, dont la manière dont le producteur travaille. Vous avez vraiment des producteurs qui sont des vrais créatifs aussi, hein, qui ont une expertise sur leur manière de travailler la feuille de thé qui est formidable, et puis surtout qui vont faire évoluer leurs produits aussi, qui vont faire évoluer leur manière de travailler, un peu comme les vignerons.
C'est ça, et souvent puis, dans le sens d'ailleurs de plus de naturalité dans leurs techniques agricoles.
Tout à fait, oui. Et après, bien sûr, il y a le volet un peu plus créatif où, pour ma marque, je fais faire des assemblages avec différentes plantes, et j'en fais pour ma marque et pour d'autres marques aussi.
Alors, marque qu'on peut trouver d'ailleurs dans de grands hôtels parisiens, mais on en vient à une question qu'on nous pose de façon assez répétée sur le mail dont on va déguster. C'est comment vous l'avez appelée pendant le disque, Elvira?
La reine des scones, bien évidemment.
Je prends. Ça me dérange pas, ça va.
Alors, question
je
de la.
Comme c'est lancé.
Question de la reine des scones.
Question de la reine des scones, j'ai pas la réponse d'ailleurs. Ça tombe bien. Une auditrice nous écrit: j'adore le thé, mais le bon thé est vraiment réservé à une tranche de la société qui a les moyens. Les prix sont vraiment inabordables.
Alors, cette question, qu'est-ce qu'on en fait? Le prix du thé. Arlette Romer, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, je crois.
Non, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'en fait, une tasse de thé, c'est 2 grammes. Et plus le thé sera un grand cru, plus on pourra faire d'infusion avec. Ça veut dire que dans l'absolu, même les très grands thés restent moins chers. C'est reste la boisson la moins chère au monde. Si on compare un jus de fruits à X vin, bière ou autre boisson, ça reste la boisson la moins chère.
Donc rapporté à la quantité de thé que l'on utilise pour se faire une tasse,
exactement.
Ça reste, même des grands thés exceptionnels, ça reste une boisson relativement abordable, en tout cas plus abordable que beaucoup d'autres boissons et alcools. Hein.
Ouais.
On sera en général, pour la majorité des thés qu'on trouve sur le marché français, en dessous de 1 euro la tasse. Bien en dessous de 1 euro la tasse.
C'est ce qu'il faut
pour
se
donner
dire.
Un ordre de grandeur.
Pour parfois, effectivement, une tasse d'émotion immense.
Tout à fait.
Elvira, une autre question ?
Une autre question à propos des thés fumés. Bénédicte s'inquiète de sa difficulté à s'approvisionner en Lapsang Souchong.
Ah, Lapsang Souchong, voilà encore autre chose. Définition ?
Donc le Lapsang Souchong, c'est un thé traditionnellement fumé en Chine, dans un fumoir, comme tout produit fumé. Et effectivement, la réglementation française a changé. Elle est beaucoup plus stricte au niveau de deux résidus qu'on retrouve suite au fumage, l'anthraquinone et le biphényl. Et on ne peut plus donc importer ces thés fumés parce qu'ils sont dans la catégorie alimentaire du thé et pas du produit fumé.
Très bien. On a également une question sur le Sri Lanka, le cas épineux du Sri Lanka, car c'est un fameux terroir de thé, un terroir historique où le glyphosate, hein, cet herbicide dont on parle beaucoup en Europe, a été interdit en 2005 à la suite de son utilisation intensive dans les rizières du nord du pays. Et comme c'était dans les rizières, souvent la population buvait l'eau qui servait précisément à irriguer le thé. Il y a eu une recrudescence de maladies des reins, du foie, etc. à cause du glyphosate. Moralité, ce glyphosate a été interdit. Les producteurs du Sud, spécialisés plutôt dans les plantations de thé, s'en sont plaints, car il faut reconnaître que l'essentiel de la culture du thé dans le sud du Sri Lanka est dépendante de ce fameux glyphosate. Il a été réintroduit et à nouveau autorisé en janvier 2018. Est-ce que le Sri Lanka peut faire des thés bio, Arlette Romer?
Moi, je travaille avec le Sri Lanka depuis 25 ans.
Oui.
Donc, la petite coopérative en bio, donc la première avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille toujours, a démarré un an avant moi. Donc, vous voyez, il y avait déjà du bio à cette époque-là.
D'accord.
Et donc, pas d'utilisation de glyphosate. Et ces producteurs-là vont vers la biodynamie. On en parlait tout à l'heure. Et j'en reviens. Là, je suis rentrée il y a 15 jours. Et
du Sri Lanka.
Du Sri Lanka.
Très bien.
Et j'étais ravie d'entendre que un nombre incroyable de petits producteurs, en fait, va vers la biodynamie à cause des résultats. Exactement.
Et vous m'avez dit qu'on identifie à peu près 3000 producteurs.
Je travaille avec plus de 3000 producteurs de petites coopératives. Donc, c'est une grande coopérative, mais ce sont des petites régions qui font thé et épices. Hein, donc, aussi biodiversité.
On a une idée de ce que représente la proportion de bio par rapport au conventionnel au Sri Lanka, ou c'est compliqué ?
Alors, au Sri Lanka, je ne sais pas. Au niveau mondial, j'ai regardé un peu les chiffres. Alors, on n'a pas des chiffres très récents, hein, c'est 2015. Apparemment, 1% de la production de thé était en bio. Et donc, et 5% de thé alternatif. Ça veut dire bio, fair trade, oats, à peu près sur la production mondiale.
Et vous pensez que ces chiffres vont évoluer ?
Ça évolue, mais pas rapidement, à mon avis.
Ça prend du temps. Il y a une inertie, Lydia Gauthier ? Difficile de changer les mauvaises habitudes ?
Ben, je pense que ça prend du temps de changer les mauvaises habitudes et ça prend du temps de donner de la résistance au théier. On peut faire un parallèle avec la vigne. Quand on décide de se convertir, il faut qu'on ait quand même de la trésorerie et les reins solides pour avoir plusieurs passages à vide avant que les théiers soient assez robustes pour recommencer à donner et pour réenclencher un nouveau système de conduite de culture.
Car il y a toujours un moment de transition assez compliqué où la plante se refait une santé et où on se retrouve un peu évidemment sans récolte du thé, on passe à...
Est-ce que je peux juste rajouter quelque
chose ?
Oui,
Arlette Robert.
J'aimerais rajouter que c'est vraiment la demande du consommateur qui va changer les choses. À partir du moment où le consommateur veut du bio, il y aura du bio. Hein, si le consommateur arrête d'acheter du chimique, mais il n'y en aura plus.
Le consommateur doit devenir consommateur et choisir évidemment des thés biologiques ou biodynamiques. Vous avez raison, Arlette Romer, de le préciser. Je disais côté du thé, on va passer à une autre boisson avec Antoine Germel. Je me demande bien laquelle.
On va déguster sur France Inter.
Antoine.
Restons en altitude, mais descendons dans le sud. Toutes ces terrasses, moi, ça m'a fait penser à un petit voyage que je viens de faire et qui m'a enthousiasmé. Je suis descendu à Montpellier en TGV. J'ai pris la voiture avec un vigneron pour monter à 30 km à l'ouest de Montpellier. Je suis arrivé à ce qu'on appelle sur les terrasses du Larzac. Alors le nom est pas très connu. Le Larzac, on imagine très bien où il est. Mais les terrasses, c'est ce terroir un peu intermédiaire dans lequel on produisait avant du Languedoc. Voilà, c'était le nom générique. Après, ça s'appelait Coteau du Languedoc. Et puis progressivement, depuis 30 ans, chaque petit territoire s'est donné des ambitions de cru. Alors il y a un cru dans ce territoire-là qui s'appelle Montpérou, dont on commence commencé à parler. Puis un village qu'on connaît bien, qui est Agnan, qui accueille notamment la Grange des Pères, qui est une star du Languedoc. Mais le territoire de Terrasse du Larzac est une appellation depuis 2014. Et j'ai fait une belle dégustation de 10 ans. Regardons sur 10 ans la qualité de ces vins. J'étais vraiment, vraiment bluffé. Alors c'est grand, le Terrasse du Larzac. Hein. C'est une trentaine de communes. C'est 600 hectares, donc 30 communes, 600 hectares. On imagine que c'est des petits coins qui sont sélectionnés sur ces communes. Et puis, il y a ces grands cépages qu'on connaît bien dans le sud. Le Grenache, bien sûr, le Mourvèdre, la Syrah, le Carignan, historiquement. Et puis le Cinsault, le petit nouveau qui est en train de faire du bruit. Cette dégustation, elle m'a permis de confirmer que des gens que j'ai connus il y a 20 ans ont fait des progrès sans que les prix augmentent. Ça, c'est important. Il faut savoir qu'un Terrasse du Larzac, ça coûte entre 13 et 30 euros. Il y a 20 ans, ça coûtait entre 13 et 30 francs. Donc, vous voyez, on est exactement dans cette même qualité. Les stars, donc je mets à part peut-être un ou deux, sont aussi très sages. Je vais vous servir dans un verre, pour moi, un des vins les plus emblématiques de ce secteur. On le trouve autour de 30 euros sur la carte d'un restaurant ou en caviste. Donc, c'est vraiment passionnant. Et puis, il y a surtout des jeunes qui s'installent parce que l'hectare est encore accessible. Ça monte un peu, mais on est autour de 15-20 000 euros l'hectare, donc on peut trouver des vignes vieilles, plutôt en production. Le plus difficile, c'est de se créer une cave, parce qu'aujourd'hui, les vignerons ne peuvent plus faire des caves comme ils veulent. Donc il faut trouver un petit coin dans un village pour installer un pressoir, trois cuves, et on se lance comme ça. Voilà, cette dégustation, elle m'a emballé. Alors les noms, je vais vous les citer, les plus connus, Domaine de Montcalmès, Pat d'Escalette, Mascal del Moura, Mas Julien. Alors on va commencer dans votre verre, le grand verre, Mas Julien, l'Olivier Julien, c'est...
Vous buvez un peu de thé ou pas, mesdames? Oui.
Absolument.
Vous buvez un peu de vin,
un thé rouge, un thé rouge. Olivier Julien, c'est le papa un peu de tout le monde, même s'il est sec, jeune dans sa tête, toujours en effervescence, mais il fait du vin depuis les années 80, sorti de la coopérative. Il donne un style, il a évolué son style. Ça que j'aime bien, c'est que il a fait au départ quelque chose d'assez démonstratif, un peu comme tout le monde dans le Languedoc, pour prouver qu'on pouvait être meilleur que Bordeaux, ou on pouvait tenir comme les Bourgognes. Non, aujourd'hui, ils ont oublié tout ça, ils sont eux-mêmes. Et Olivier Julien, il a monter ses vignes, parce que les terrasses du Larzac, on monte, et on peut arriver à 400-500 mètres d'altitude.
Pour aller chercher la fraîcheur,
pour aller chercher les bonnes expositions. Et c'est le travail d'Olivier. Il a une belle expression, Olivier, il dit, j'ai mis du sourire dans mes vins. Et voyez, le sourire, c'est ça, c'est celui qu'on a généralement quand on finit le verre. Et c'est aussi chercher quelque chose d'un peu plus aimable. Mm-hmm. Et alors, je vous ai servi aussi un autre vin à côté, parce que c'est les anciens qui montent la voie, et puis des petits jeunes qui débarquent. Là, c'est un clos qui a été lancé en 2015, s'appelle Clos La Bartassade. Alors Clos La Bartassade, c'est un jeune vigneron qui est très très prometteur. Guillaume Baron et sa femme Hélène et leurs trois enfants. Quand vous débarquez dans les vignes, ils sont en train de tailler, les marmots courent partout, les chiens aussi. Et eux, ils sont formés à Beaune, en Bourgogne, donc ils ont travaillé chez des très beaux domaines en Bourgogne, à Trévalent aussi en Provence, et ils viennent chercher ici, pareil, la même chose, sans influence, ils veulent créer leur propre cru. Alors là, c'est un petit peu plus démonstratif, ça s'appelle Les Ouvrés, c'est 2016.
Il y a de la matière, hein.
Il y a de la matière, voilà.
C'est large d'épaule.
Voilà, et moi, je le mets en cave, je l'oublie, hein, parce que cette dégustation m'a démontré aussi que les 2006, en ce moment, ou les 2007, arrivent tout juste à point. Donc c'est des crus, voilà, qu'il faut leur laisser du temps. Mais voilà, la Bartassade, ça donne aussi une dimension, on va dire, plus far west, plus découverte. Quand des jeunes s'installent, ils peuvent aussi rebattre les cartes. Et dernier point, c'est où aller manger et boire pour découvrir ces vins à tout petit prix. Alors là, le coup de cœur est immense. Ça s'appelle la Petite Fringale. On est à Saint-Jean-de-la-Blaquière, 639 habitants. Donc on est dans le canton de Lodève, vous voyez à peu près où on est. Vous arrivez sur une place de village avec les bons vieux platanes. Il y a une petite cahute qui ressemble à rien, ça ressemble presque un peu à une roulotte. Et là, il y a un super jeune chef qui vous fait un menu entrée 5 euros, plat 10 euros, tout est locavore, tout est tendance bio, la carte des vins, c'est parfait, les vins sont entre 20 et 30 euros, c'est l'adresse que les vignerons vous chuchotent à l'oreille en vous disant « n'en parle pas à la radio, c'est notre cantine, elle est géniale ». Voilà, c'est mon grand coup de cœur. Vous avez passé Israël en Bretagne il y a quelques temps, ben voilà, c'est le deuxième coup de cœur. Magnifique. On est dans cette même famille.
Mini question, est-ce que l'éco-responsabilité sur les terrasses du Larzac, ça se passe comment?
Plus de 50% des vignerons sont en bio et ça s'accélère à une vitesse incroyable.
Voilà, magnifique. Ben écoutez, très bien et merci pour votre adresse, on retrouve tous sur France Inter.fr à la page On va déguster. L'été que vous deviez nous faire goûter en fin d'émission, malheureusement on arrive au terme de cette émission. C'était quoi, juste en un tout petit mot,
Un thé qui vient de Taïwan, des Alishan, qui est fait par une petite productrice dans un jardin écologique,
magnifique,
moins d'un hectare à 1000 mètres d'altitude.
On va retrouver toutes les références sur le site internet. Et Arlette Romer.
Donc c'était un pouer cru qui vient juste d'être pressé, puisque c'est la galette qu'on va faire venir pour nos 25 ans, qui s'appelle Peace, Love and Tea.
Génial, on va retrouver également les Peace, Love and Tea. Voilà, un cru exceptionnel de
printemps. Donc voilà.
Parfait. Merci Arlette Romer, Les Jardins de Gaïa, portrait de thé aux éditions de La Chouët-Niesselet pour vous, Lydia Gauthier. J'attire votre attention, chers auditeurs, sur l'hommage que Vincent Josse rendra en direct à 15h à Agnès Varda dans son grand atelier avec Xavier Le Harper, Jane Berkin, Valérie Mérès et Julia Fabrice. C'était l'assistante réalisatrice d'Agnès Varda. La semaine prochaine, on vous montre que le sushi peut être une quête, une esthétique, un art. On en parle avec Shihiro Masui et l'auteur de bande dessinée Francky Alarcon. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.